Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, vous allez entendre le verset 186 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Janati vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset porte sur l'appel de Dieu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العلي العظيم.
Et quand mes esclaves t'interrogeront sur moi, alors que je suis tout proche, je réponds à l'appel de qui fait appel quand il m'appelle. Qu'il cherche donc à répondre à mon appel et qu'il croit en moi, peut-être serait-il le bien dirigé.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Mesdames, Messieurs, chers amis auditeurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver encore une fois sur ces ondes de l'amitié et de la fraternité en ce lundi 8 avril 2024. J'ai le grand plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information suivi d'un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. L'Iran est un île de stabilité et de sécurité dans la région troublée de l'Asie de l'Ouest, a fait remarquer le ministre iranien des Affaires étrangères. La résistance islamique irakienne a visé 3 cibles vitales israéliennes et l'OMS appelle à établir une couverture sanitaire universelle pour réduire le fardeau des maladies en Afrique. C'était les principaux titres, en voici le journal. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a déclaré que l'Iran était un îlot de stabilité et de sécurité dans la région troublée de l'Asie de l'Ouest. Hossein Amir Abdollahian a fait ses remarques lors d'une conférence de presse avec son homologue omanais Sayed Badr al-Busaidi à Mascate dimanche 7 avril. Il a déclaré que l'Iran ne permettrait à personne de porter atteinte à sa sécurité nationale, ajoutant que le pays avait envoyé un message clair aux États-Unis suite à une attaque israélienne contre la section consulaire de l'ambassade d'Iran en Syrie plus tôt cette semaine. Message selon lequel Washington ne pouvait pas rejeter sa responsabilité dans l'attaque. Le ministre a déclaré que l'Iran continuerait à renforcer ses relations avec ses voisins dans le but de contribuer à accroître la sécurité et le développement dans la région. Il a remercié Oman pour son rôle dans la levée d'une série de sanctions unilatérales imposées à l'Iran ces dernières années. Le chef de la diplomatie iranienne a indiqué que l'Iran et Oman sont déterminés à améliorer leurs relations économiques et commerciales en mettant l'accent sur une plus grande implication des secteurs privés des deux pays. Il a déclaré que le lancement prévu d'un corridor de transport nord-sud reliant l'Ouzbékistan et le Turkménistan à Oman via l'Iran servirait les intérêts de tous les pays impliqués dans le projet. Par ailleurs, le plus haut diplomate iranien a souligné que les deux pays partageaient une position commune sur la nécessité de mettre fin à la crise humaine à Gaza. Les deux parties conviennent que la guerre à Gaza doit cesser immédiatement et que l'aide humanitaire doit parvenir à Gaza sans délai. A-t-il dit, tout en remerciant Oman d'avoir admis dans ses hôpitaux un groupe de personnes blessées lors de la guerre israélienne à Gaza. Pour sa part, le ministre omanais des Affaires étrangères, Badr al-Busaidi, a déclaré qu'Oman considérait la visite d'Amir Abdollahian au Sultanat comme une opportunité de renforcer les relations bilatérales et régionales. Il a déclaré que l'Iran et Oman cherchaient à travailler ensemble pour trouver des solutions aux tensions et crises régionales, y compris la question israélienne continue contre Gaza, qui, selon lui, infligeait d'énormes douleurs et souffrances à la population palestinienne. Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies, PAM, a tiré la sonnette d'alarme sur la situation humanitaire désastreuse dans la bande de Gaza, au milieu d'une guerre génocidaire israélienne, affirmant que des enfants meurent de faim dans le territoire palestinien assiégé. La directrice exécutive du PAM, Cindy McCain, a fait ses remarques dans une interview accordée dimanche à CNN, alors que le régime de Tel Aviv utilise la nourriture comme arme de guerre et bloque délibérément les livraisons d'aide à Gaza au cours des 6 derniers mois. Interrogée sur l'impact de la pénurie alimentaire à Gaza, en particulier sur les enfants, McCain a répondu « Eh bien, des enfants meurent au moment où nous parlons ». De son côté, le chef de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, affirme que le nombre élevé d'enfants tués à Gaza resterait une tâche sur l'humanité tout entière, tout en appelant à la fin de la guerre génocidaire en cours menée par Israël. Elle a également averti que Gaza est littéralement sur le point de franchir le bord, de franchir la falaise et la famine et de ne pas pouvoir s'en remettre. Israël mène sa guerre brutale contre Gaza, soutenue par les États-Unis, depuis le 7 octobre. Il a tué au moins 33 175 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants, et en a blessé 75 886 autres. La résistance islamique irakienne affirme avoir mené 3 opérations anti-israéliennes contre 2 casernes, une base militaire dans le Golan occupé et les territoires palestiniens occupés. La résistance islamique en Irak, qui regroupe les mouvements antiterroristes du pays, a fait part de ses opérations dans trois déclarations distinctes sur sa chaîne Telegram dimanche soir et lundi matin. La résistance irakienne a attaqué par drone lundi matin, 8 avril, la base sioniste Elifalit, au nord du lac de Tibériade, dans les territoires occupés. De même, les combattants de la résistance ont frappé par drone dimanche matin la caserne occidentale de Yarden dans le Golan occupé. Ils ont également visé la caserne au sud de Yonatan dans les territoires occupés, toujours dimanche. Ces nouvelles opérations anti-israéliennes s'inscrivent dans le cadre du soutien au peuple à Gaza et en réponse aux exactions de l'entité usurpatrice contre les civils palestiniens, notamment les enfants, les femmes et les personnes âgées. Au cours de ces trois derniers jours, les forces armées yéménites ont lancé 5 opérations militaires contre les navires israéliens, américains et britanniques en mer Rouge et en océan Indien. Le général de brigade Yahya Sari, porte-parole des forces armées yéménites, en se référant au soutien de Sanaa au peuple palestinien et à la réponse des forces yéménites aux agressions des États-Unis et du Royaume-Uni, a fait part le dimanche 7 avril de 5 opérations militaires au cours de 72 heures. Avec l'aide de Dieu Tout-Puissant, les forces navales yéménites ont attaqué le navire britannique Hope Island en mer Rouge avec des missiles qui ont atteint directement leur cible, a indiqué le communiqué des forces armées yéménites. Deux navires israéliens qui se dirigeaient vers les ports de la Palestine occupée ont été également attaqués avec succès par un certain nombre de missiles balistiques et de croisières, le premier dans l'océan Indien et l'autre en mer d'Oman. L'armée de l'air yéménite a également mené deux autres opérations utilisant plusieurs drones pour attaquer des frégates américaines en mer Rouge. Ce communiqué indique que les forces armées yéménites poursuivront leurs attaques pour empêcher les navires du régime sioniste ou ceux liés à l'ennemi israélien ou les navires qui se dirigent vers les ports palestiniens occupés en mer Rouge et dans l'océan Indien tant que les attaques du régime sioniste contre Gaza ne prendront fin. L'Ukraine a démenti dimanche l'accusation d'implication de Kiev dans des attaques de drones contre la centrale nucléaire de Zaporijjia. Des drones ukrainiens ont attaqué dimanche la centrale nucléaire de Zaporijjia, dont un sur le dôme de la 6e unité de production, selon le service de presse de la centrale. L'AIOA a affirmé dans la nuit de dimanche à lundi que des attaques de drones avaient endommagé l'une des 6 unités de la centrale, mais que la sûreté nucléaire n'avait pas été compromise. La centrale nucléaire de Zaporijjia est la plus grande centrale nucléaire d'Europe et comprend 6 unités de production d'une capacité totale de 6 gigawatts. Les gouvernements africains doivent améliorer l'accès à des soins de santé de qualité pour tous citoyens dans le but de réduire le fardeau des maladies sur le continent, a déclaré dimanche 7 avril une responsable de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, à l'occasion de la Journée mondiale de la santé, célébrée chaque année le 7 avril. Selon Matshidi Somoeti, directrice régionale de l'OMC pour l'Afrique, le continent a besoin de choix politiques audacieux et de réformes législatives et politiques pour réaliser le programme de couverture sanitaire universelle. Malgré certains défis, les pays africains ont aussi réalisé des progrès significatifs dans la fourniture de services de santé de qualité à leurs citoyens au cours des 2 dernières décennies, a dit Mme Moeti. Elle a rappelé qu'entre 2000 et 2020, l'espérance de vie des femmes africaines était passée de 54 à 67 ans et que le taux de mortalité maternelle a diminué de 33%, ce qui équivaut à 531 décès maternels pour 100 000 vies contre 780 vies auparavant. En outre, le nombre d'enfants sur le continent mourant avant l'âge de 5 ans a diminué de 50% entre 2000 et 2017, tandis qu'au cours de la même période, le nombre de nouvelles infections au VIH et de décès liés au sida a diminué de 44% et 55%, respectivement, en Afrique. Des gardes-côtes tunisiennes ont secouru 1867 migrants clandestins de différentes nationalités et repêché les corps sans vie de 13 personnes au large des côtes orientales du pays, a déclaré dimanche la direction générale de la garde nationale tunisienne dans un communiqué. Parmi les 1867 migrants irréguliers sauvés, 1829 personnes sont de nationalité des pays d'Afrique subsaharienne, a précisé la direction générale de la garde nationale, ajoutant que ces unités de la garde maritime avaient réussi à déjouer 55 tentatives de migration clandestine. Selon la même source, les unités du district de la garde nationale Sfax ont arrêté 14 passeurs et intermédiaires impliqués dans des tentatives de migration clandestine. Située sur la rive sud de la Méditerranée, la Tunisie est l'un des points de départ les plus empruntés par les migrants clandestins africains pour se rendre en Europe. Voilà, ainsi s'achève le journal. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute du commentaire politique. Les trois grandes responsabilités de l'université, d'après le leader de la révolution islamique. Lors d'une audience accordée aux étudiants à l'occasion du mois béni du Ramadan, le leader de la révolution islamique, l'Ayatollah Sayyed Ali Khamenei, a qualifié la justice de négation de l'écart de classe dans l'accès aux opportunités. Le guide suprême de la révolution islamique a affirmé: les réalités auxquelles nous sommes confrontés devraient guider les jeunes esprits de nos étudiants dans des directions qui sont plus proches de la résolution des problèmes. Nous devons être à la quête d'idées pour réaliser nos idéaux. La République islamique peut résumer ses idéaux en deux rubriques générales. L'une est la gouvernance par des méthodes islamiques et l'autre consiste à fournir au peuple du monde un modèle de bonne gouvernance. C'est notre idéal principal. Vous devez lutter pour la réalisation de cet idéal. Il faut réfléchir à cela et travailler sur les moyens de le réaliser. Si nous voulons définir l'université, nous dirons que les principaux piliers d'une université sont la science et la connaissance, a souligné le leader de la révolution islamique. Et d'ajouter: l'université a trois tâches principales à accomplir. Premièrement, elle doit former des savants. Deuxièmement, elle doit produire de la science. Et troisièmement, elle doit définir l'orientation de la formation des savants et de la production de la science. Dans une autre partie de son discours, le guide suprême de la révolution islamique a fait remarquer: dans les autres pays, les universités forment des scientifiques et produisent aussi de la science, mais elles sont faibles en ce qui concerne le troisième élément. Quel en est le résultat? Le résultat en est que la formation des scientifiques et la production de la science deviennent un outil entre les mains des puissances sionistes et des puissances arrogantes. Tous les universitaires doivent tenir compte de ces trois points. Recteurs, professeurs, étudiants doivent se mobiliser pour réaliser ce triple objectif, a souligné le guide suprême de la révolution islamique.
Madame, Monsieur, bonjour, heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition du débat en ce samedi 6 avril 2024. Israël bat le record en termes de meurtres de travailleurs humanitaires. Le nombre de travailleurs humanitaires tués par Israël dans la bande de Gaza au cours de 6 derniers mois est supérieur, selon les chiffres officiels, au nombre total de travailleurs humanitaires morts au cours des 30 dernières années dans d'autres parties du monde. Bilan catastrophique et choquant. Les travailleurs humanitaires de l'ONG d'aide alimentaire connue sous le nom de World Central Kitchen sont les dernières victimes des attaques israéliennes du genre. On va s'intéresser à ce sujet avec nos deux experts tout de suite après un petit reportage. Restez avec nous, on se retrouve tout de suite après.
Au court terme de meurtres de travailleurs humanitaires.
Le nombre de travailleurs humanitaires tués par Israël dans la bande de Gaza au cours des 6 derniers mois est supérieur au nombre total de travailleurs humanitaires morts au cours des 30 dernières années dans d'autres parties du monde. Un rapport de la base de données sur la sécurité des travailleurs humanitaires montre qu'Israël a tué plus de travailleurs humanitaires dans la bande de Gaza que de travailleurs humanitaires tués ailleurs dans le monde au cours des 30 dernières années. Selon ce rapport, au moins 203 travailleurs humanitaires ont été tués dans les attaques israéliennes depuis le 7 octobre 2023 et les attaques incessantes d'Israël contre les Palestiniens, une situation grave que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a qualifiée d'inadmissible et s'est déclaré profondément préoccupé. Les travailleurs humanitaires de l'ONG d'aide alimentaire, connue sous le nom de World Central Kitchen, sont les dernières victimes des attaques israéliennes du genre. 7 d'entre eux ont été tués lundi. Une frappe du régime sioniste sur la bande de Gaza a suscité les réactions virulentes de leurs respectifs pays, malgré leur soutien à Israël. Ces attaques et le meurtre de travailleurs humanitaires réduisent la portée de l'aide apportée à la population de Gaza, assiégée et bombardée. Suite à la récente attaque, les Nations Unies ont annoncé qu'elles suspendraient les mouvements nocturnes de leur personnel pendant au moins 48 heures. L'ONG caritative a également été contraint de mettre un coup d'arrêt à ses opérations et ses livraisons d'aide alimentaire vitale à Gaza. Voilà pour le récit du drame. Cette humanitaire représentante de divers pays du monde occidentaux, des pays occidentaux, ont été tués par Israël délibérément. Alors, j'ai le grand plaisir de recevoir sur notre plateau Monsieur Jean-Michel Vernochet, écrivain et journaliste français, analyste politique. Ravi de vous retrouver, Monsieur Vernochet. Bienvenue.
Oui, bonjour à toutes et à tous en ces heures graves et tristes.
Merci beaucoup. J'ai immense plaisir aussi de recevoir pour ce débat Maître Arnaud Doblet, juriste international, analyste politique. Bienvenue, Maître Doblet.
Oui, bonjour à vous, spectateurs. Monsieur Vernochet.
Voilà, on va tout de suite commencer le débat par vous, Monsieur Vernochet. Il s'agit d'un difficile acheminement de l'aide humanitaire. Pourtant, l'acheminement des armes est très fluide et très facile. Je vous laisse réagir.
Écoutez, vous avez dit que de nombreux humanitaires avaient été, il faut dire le mot, il n'est pas trop fort, assassinés dans la bande de Gaza. Depuis le 7 octobre, nous avons un décompte de 196 humanitaires, dont 175 agents des Nations Unies. Alors on va dire que ce n'était pas des Américains, c'était des Palestiniens qui œuvraient pour l'agence des Nations Unies. Toujours est-il que les véhicules qui ont été frappés, ils étaient 3, donc 7 morts, je le répète, avaient des signes distinctifs inscrits sur le toit, que leur itinéraire avait été communiqué à l'armée israélienne, également donc les coordonnées GPS, absolument tout, avec l'heure ils partaient et où ils se destinaient, voilà. Donc l'armée israélienne a parlé de frappes non intentionnelles.
Monsieur Vernochet, apparemment il y a un souci du son, je vous entends plus.
Ah, c'est
vous m'entendez?
Oui, moi je vous entends.
Voilà, veuillez reprendre s'il vous plaît.
À quel moment je
Bon, quelques mots avant. Oui,
alors je disais que l'itinéraire était connu, la destination des véhicules était connue, les distinctifs était inscrit sur le toit des véhicules humanitaires et il est très difficile de parler de frappe non intentionnelle. C'est se moquer du monde. Alors, l'armée israélienne n'a pas nié, n'a pas dénié et a annoncé qu'elle avait pris des sanctions contre deux ou trois responsables. Mais tout ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que c'est que ces sanctions ? Les gens qui, de façon délibérée, qui ont mis des meurtres et des meurtres qui faisaient spécifiquement.
Monsieur Vernochet, bon, le problème persiste toujours. À vous, M. Dovlé, s'il vous plaît. Alors, le Conseil de sécurité fait le point sur la situation humanitaire à Gaza suite au meurtre de 7 travailleurs de cette ONG alimentaire. Alors, ces 7 victimes rejoignent dans l'au-delà plus de 220 travailleurs humanitaires, dont 179, comme vient de dire M. Vernochet, membre du personnel de l'ONU. Alors, c'est le plus grand nombre de victimes humanitaires des temps modernes et il paraît que cela va de pire en pire. Pourquoi on ne peut pas arrêter cette machine de massacre et pourquoi le monde, l'ONU, alors, sont incapables et impuissantes face à cette machine de tuerie?
Mais il arrête. Je pense malheureusement que la situation est sont présents d'un régime qui on l'a vu récemment encore avec le bombardement de la première fois en l'occurrence de Sulaïm qui n'a pas pu voir de penser. Et donc, le parlementaire, parce que lui-même est reculé toujours. On a vu la manière dont l'Arabie a été imposée par le régime de Tel Aviv, selon lequel l'agence PNR des faits imputés à leur centaine impliquée dans l'État. Ça a amené à la suspension du financement de cette agence qui pourtant fait un travail essentiel à Gaza, presque immédiat par les pays occidentaux. Et donc, si vous voulez, c'est toutes ces séries de décisions qui créent, si je puis dire, un peu qui conditionnent le sentiment d'impunité. Rappelons, je compléterai ce que M. Vernochet évoquait concernant les 7 travailleurs humanitaires, c'est qu'effectivement, ils avaient transmis leurs données GPS aux Israéliens, leur indiquant effectivement où ils se rendaient et dans quel véhicule. Et malgré tout, ils n'ont pas fait l'objet d'un unique, mais de 3 bombardements. C'est-à-dire qu'en fait, le premier bombardement a incapacité le véhicule, ils ont changé de véhicule, recontacté les Israéliens, pour leur dire c'est une erreur, si je puis dire, nous sommes maintenant dans tel véhicule, rebelote, ils ont refait la même chose, et une troisième fois après, jusqu'à ce que tous ces gens-là soient morts. Alors effectivement, on a appris qu'après maintes pressions sur Tel Aviv, on a appris que des sanctions avaient été prises à l'encontre de l'officier en charge de cette opération, dont il s'avère qu'il fait partie du mouvement des colons. Hein, donc c'est un dur de dur. On sait que les colons se mobilisent depuis maintenant plusieurs semaines pour empêcher les cargaisons humanitaires de rentrer dans la bande de Gaza au travers du passage frontal. Donc on peut parfaitement voir que tout cela participe de ce qui a été démontré mis en avant par le rapport fourni par Francesca Albanese, le rapporteur spécial sur la situation en Palestine, à savoir qu'il s'agit, parmi tant d'autres, d'éléments qui constituent effectivement une tentative systématique d'élimination d'un peuple dans son entièreté ou en partie en tout cas. Ça fait partie, ces trois éléments sur les 5 critères qui constituent le crime de génocide. Et on a pu voir que vraiment, il a fallu une pression énorme, même venant de Washington. Genre là, vous êtes allé trop loin. On a vu que un des ressortissants assassinés était polonais. L'ambassadeur d'Israël à Varsovie a été bloqué. avec la famille 48 heures avant que finalement des esprits timides soient mis en avant. Mais si vous voulez, c'est pour vous dire à quel point ce sentiment d'impunité, surtout conditionné par le soutien systématique des pays occidentaux, à États-Unis en fait, l'État sioniste est en roue libre, ne se préoccupe absolument pas de la perception, quelle qu'elle puisse être, de ces excès de Gaza.
Merci beaucoup, Maître Doblé. Monsieur Vernochet, alors en tant qu'un journaliste, un écrivain, un journaliste bien expérimenté, alors pourquoi, d'après vous, la gestion de cette aide humanitaire à Gaza trahit l'impuissance des Occidentaux? Alors pourquoi tant d'excès?
Elle trahit l'impuissance, l'impuissance est totale, même du côté des États-Unis, qui cependant, pourtant, pourrait cesser les fournitures d'armes, de munitions, de missiles à Israël. Alors, M. Biden tempête. Remarquons qu'il y a quelques années, lorsqu'il y avait eu des incidents assez graves également sur la bande de Gaza, M. Biden avait mis son rôle là et Israël avait obtempéré. Mais là, ce n'est plus le cas. Comme vient de dire Arnaud Develay, Israël est en roue libre, c'est-à-dire qu'ils sont sur leur lancée et ils ignorent absolument. Washington n'a plus rien à dire. Alors, les Occidentaux, je ne sais pas ce qu'ils pourraient faire, mais les Occidentaux sont à la remorque de Washington. Seul Washington, qui a mis non pas son veto, mais qui s'est abstenu dans un vote du Conseil de sécurité, on pourrait aujourd'hui arrêter cette machine folle qui est devenue l'État israélien, le gouvernement israélien dans ses composantes les plus extrêmes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a l'amorce, en tout cas il y a des comportements, comme l'a bien souligné et défini la Cour de justice internationale qui s'est réunie à Pretoria, il y a bien des comportements qui sont de type ou d'ordre génocidaire. Alors, je donnerai un dernier exemple, c'est la prise à nouveau de l'hôpital Al-Shifa par les forces israéliennes qui avaient déjà occupé cet hôpital, soi-disant bastion du Hamas, et qui a détruit l'ensemble hospitalier de fond en comble. Il reste, si vous avez vu les photographies, il ne reste que des ruines. Et on a sorti des décombres, 300 morts. Alors, impossible de faire le décompte entre ceux des combattants résistants, terroristes, appelez-les comme vous voudrez, du Hamas, et les civils, 300 morts. Mais cela aussi, je termine ici, cela signe aussi l'échec même de l'opération israélienne dans son ensemble. Nous en sommes au sixième mois et il faut reprendre et détruire l'hôpital Al-Shifa qui censément avait déjà été nettoyé pour des résultats qui sont tout sauf probants. Je soulignerai aussi le fait qu'aujourd'hui on parle, sauf dans les rues de Tel Aviv, on parle de moins en moins des otages.
Merci. Arnaud Doblé, alors, en tant que juriste, il s'agit bien d'un crime de guerre après celui perpétré à l'hôpital Al-Shifa.
Oui, absolument. C'est un crime de guerre comme on vit une succession depuis 6 mois maintenant, mais je dirais même depuis 75 ans. C'est-à-dire qu'en fait, c'est juste une intensification d'un processus qui démarre en 48. Ilan Pape a parfaitement traité le sujet dans ses ouvrages. Et c'est juste que cette fois-ci, c'est une conjonction d'événements qui portent sur un cabinet israélien composé d'éléments particulièrement radicaux, avec toujours, si je puis dire, c'est presque une cristallisation d'un processus qui a commencé il y a, disons, une dizaine d'années. C'était amorcé après l'assassinat de Rabin, mais qui vraiment l'a atteint, j'allais dire, le bout du bout du bout, avec des messianistes, hein, littéralement, hein, des révisionnistes à la Jabotinsky. Donc là, on a le cocktail parfait avec un chef de l'exécutif qui est bringué en des histoires de corruption. Je crois qu'il y a pas moins de 3 dossiers le concernant et qui. visiblement n'a pas l'intention de se plier à la justice. D'ailleurs, il a même essayé de changer les institutions. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il y a eu des mouvements de foule, des manifestations à son encontre depuis déjà plusieurs mois, parce qu'il essayait justement de mettre sous son contrôle le pouvoir judiciaire. Et partant de là, il s'est retrouvé un peu dans une situation qui n'était pas viable à moyen ou moyen terme. Ça nous amène à nous poser des questions sur la circonstance. Alors, effectivement, l'opération Tempête Al-Aqsa était une opération rondement menée, mais il y a quand même des grosses zones d'ombre concernant effectivement la manipulation du régime sioniste pour justement passer à la vitesse supérieure et rentrer dans une surenchère dont on commence à peine à concevoir l'ampleur. Et maintenant, on est en train de réaliser petit à petit que, comme l'a souligné Jean-Michel Barbochet, comme militairement c'est un échec après 6 mois, l'armée israélienne tourne en rond à Gaza à la recherche d'objectifs militaires dont on a du mal à imaginer leur nature. Et partant de là, il semblerait maintenant que la décision à Tel Aviv ait été adoptée d'élargir le conflit, avec bien sûr tous les points d'interrogation que cela engendre.
Bien dit. Monsieur Berlocher, alors, cette ONG alimentaire a demandé l'ouverture d'une commission d'enquête indépendante. Pourquoi c'est important l'ouverture, la création d'une commission d'enquête indépendante et celle annoncée par Israël, alors, suscite des interrogations et n'est pas fiable?
Alors évidemment, ce sont des parlottes, ce sont des intentions purement verbales, ça ne veut rien dire. Avez-vous jamais vu une commission d'enquête de ce type aboutir? Elles s'enlisent, si je prends l'exemple de Boutcha en Ukraine, le fameux massacre, si bien mis en scène, il y a eu des enquêtes, on a envoyé des experts médicaux internationaux, mais on n'a jamais eu le résultat de l'enquête, et le résultat, vous pouvez bien l'imaginer, comme dans tout ce type de situation. C'est le fleuve ou la rivière qui vient mourir dans les sables du désert. Alors, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Arnaud Devlet, qui me semble important. Aujourd'hui, effectivement, il semble que la décision a été prise, avant ce n'était qu'une option, d'élargir, avec tous les risques que cela comporte, mais aussi tous les avantages au regard de la politique qu'entend mener l'équipe gouvernementale radicale et même fanatique qui est aujourd'hui à la tête d'Israël. C'est l'élargissement au nord d'Israël, au sud Liban et au-delà, puisqu'on a eu cette frappe il y a quelques jours qui a fait quand même plus de 13 morts à Damas sur le consulat iranien. C'est quand même une zone d'extraterritorialité avec une protection diplomatique et qui a permis à Israël d'éliminer le général Zaidi, qui, si je ne me trompe, qui était le numéro 3 ou 4 des gardiens de la Révolution. Mais c'est un acte extrêmement grave qui rappelle peut-être le bombardement de l'ambassade de Chine, de la République populaire de Chine, par les Américains en 1999 à Belgrade, lors de la guerre du Kosovo, puisque c'est une guerre qui a été strictement et totalement aérienne. Il n'y a pas eu de troupes au sol. C'est un précédent aussi, c'est quelque chose qui montre que nous sommes un cran au-dessus dans l'escalade, et je me borne de citer, il y a eu aussi des bombardements à Alep qui ont fait un certain nombre de dommages collatéraux, comme on peut dire, qui montrent qu'il y a une volonté d'allumer la mèche et d'essayer d'embraser, d'engager, de croiser le fer avec le Hezbollah. Aujourd'hui, Israël, je m'arrête ici, cherche un prétexte et provoque, pour cela provoque, grâce au ciel, le gouvernement iranien est d'une grande sagesse et d'une grande patience, et espérons qu'il persistera dans cette attitude.
Merci beaucoup. Arnaud Daublé, alors la présidente de Save the Children US a annoncé, a alerté en fait, en outre, que 350 000 enfants moins de 5 ans risquent de mourir de faim dans une famine provoquée par l'homme. Est-ce que vous voyez un lien entre cet incident, le drame et cette guerre de faim?
Oui, le lien, c'est effectivement au cœur de la définition même du crime de génocide, à savoir créer les conditions portant sur l'atteinte grave à la santé, à l'intégrité corporelle de toute une population. C'est un des critères des 5 critères retenus, en tout cas considérés par le rapport albanais. Et j'ajouterais que on n'est pas vraiment en territoire nouveau, puisque rappelons-nous des déclarations de l'ex-secrétaire d'État américaine Madeleine Albright en 1996. Là, il s'agissait des 500 000 enfants irakiens qui étaient plus ou moins en danger de mort posée par les sanctions des États-Unis imposées sur ce pays à l'époque. Et elle avait benoîtement répondu que cela en valait la peine, je cite. Donc on a affaire à des...
Elle avait dit que c'était le prix à payer.
Le prix à payer, voilà. Donc, que puis-je dire, enfin, ce n'est rien de nouveau. On est vraiment en présence de gens qui pratiquent la politique avec un cynisme absolu. Et on peut même dire que certaines vies valent plus d'autres. Quand on voit quelque part aussi le traitement médiatique accordé aux 7 travailleurs humanitaires, et cela dans un océan de sang, avec maintenant près de 35 000 morts, les 65 000 blessés, plus tous les autres qui résident encore sous les décombres, c'est presque quelque part ubuesque de voir que 7 Européens comptent plus que près de 100 000 Palestiniens. Quoi. Donc, mais malheureusement, c'est la situation à laquelle on est confronté, avec des gens qui sont complètement déshumanisés dans leur façon de gérer les affaires d'un pays et dans le cadre de leurs attributions
bureaucratiques. Merci beaucoup. Une minute encore devant nous. Monsieur Vernochet, vous voulez ajouter quelque chose ou conclure ?
Oui, nous sommes dans une spirale infernale. Satan mène le bal, et puisque l'Europe est quand même plus ou moins au bord de la guerre à travers l'OTAN avec la Fédération de Russie, que des hommes comme M. Macron n'auraient pas hésité à engager l'arme nucléaire dont nous sommes, nous, Français, détenteurs, on voit bien que le monde est en train de naufrager. C'est la planète Titanic. Il faudrait d'urgence, je ne sais pas si on peut parler de miracle, mais qu'il y ait un renversement de la tendance. Et ça, je l'appelle de tous mes voeux. Voilà.
Merci Jean-Michel Vernochet, écrivain et journaliste. Merci à vous également Arnaud Daublé, analyste politique et juriste international. Et merci à vous amis et auditeurs. Merci de votre fidélité. À bientôt, à la prochaine.
Voyage dans l'univers mystique de Molavo. Dans cette série d'émissions, nous allons vous raconter les contes traduits du persan en français, rassemblés dans un ouvrage qui s'intitule « Le Masnavi, 150 contes soufis ». Dès les premières pages, les traducteurs soulignent la subjectivité de l'ouvrage, puisque traduit par fragments seulement et d'une manière relativement libre pour donner le reflet le plus fidèle possible de la pensée de Jalaleddin Balkhi.
qui dit choix dit donc également interprétation et partialité. L'âne et le renard. Un paysan possédait un âne, étique et décharné, qui errait du couchant au lever du soleil dans les déserts de rocailles sans rien manger, lamentable. Or, dans cette contrée, il y avait une forêt entourée de marais sur laquelle régnait un lion, grand chasseur. Ce lion se trouvait alors épuisé et meurtri à la suite d'un combat avec un éléphant. Il était si faible qu'il ne trouvait plus la force de chasser. Si bien que lui et les autres animaux se trouvaient privés de nourriture. En effet, ces derniers avaient l'habitude de se nourrir des restes du lion. Un jour, le lion ordonna au renard « Va me chasser un âne. Trouve-en un dans la prairie et débrouille-toi pour me l'emmener ici par ruse. En mangeant sa chair, je reprendrai force et me remettrai à chasser. Il m'en faudra fort peu et je vous laisserai le reste. Pratique tes sortilèges et ramène-moi un âne ou un bœuf. Emploie tout moyen à ta convenance, mais arrange-toi pour qu'il s'approche de moi. « Je suis ton serviteur, » dit le renard. « Je suis à mon affaire dès qu'il s'agit de ruser. Ma voix ici-bas consiste à guider ceux qui quittent le bon chemin. » Il partit donc vers la prairie. En chemin, au beau milieu d'un désert, il tomba sur l'âne qui errait, maigre et décharné. Il s'approcha et entama la conversation avec cet innocent. « Mais que fais-tu donc dans ce désert de pierrailles ? Que je mange des épines ou que je sois dans le jardin de l'Irem. Dieu l'a voulu ainsi et je lui en rends grâce. On doit remercier pour les bienfaits comme pour les déboires. Car dans le destin existe le pire du pire. Comme c'est Dieu qui fait la répartition, la patience est la clé de toute faveur. S'il m'offre du lait, pourquoi lui demanderais-je du miel? De toute façon, chaque jour apporte sa part de tourment. Mais, répliqua le renard, la volonté de Dieu, c'est que tu cherches la part qui t'est destinée. Ce monde est un monde où règne le prétexte. S'il n'y a ni prétexte ni raison apparente, ta part t'échappe. C'est pour cela qu'il est important de réclamer. Ce que tu dis, fit l'âne, prouve ton manque de confiance en Dieu. Car celui qui donne la vie donnera aussi le pain. Celui qui est patient finit par trouver sa part, tôt ou tard. Et à coup sûr, plus rapidement que celui qui ne sait pas attendre. La confiance en Dieu, répondit le renard, c'est là une chose bien rare, et ne crois pas que moi ou toi nous l'ayons. Il faut être bien ignorant pour chercher à obtenir ce qui est rare, car il n'est pas donné à chacun de devenir sultan. Ton discours n'est fait que de contradictions. Répliqua l'âne. Ici-bas, tous les malheurs proviennent de l'avidité. Jusqu'à ce jour, nul n'a jamais entendu parler d'une mort causée par la modération, et personne n'est devenu sultan par la seule force de l'ambition. Les chiens ne mangent pas de pain, et les cochons non plus. La pluie et les nuages ne sont pas le fruit d'une action humaine. Le désir que tu as de prendre ta part n'a d'égal que le désir qu'a ta part de te rejoindre. Si tu ne vas pas vers elle, elle viendra à toi. Dans cette quête, la précipitation ne peut qu'apporter des déboires. Ceci n'est qu'une légende, railla le renard. Il faut se donner du mal, ne serait-ce que pour obtenir une graine. Puisque Dieu t'a donné des mains, tu te dois de t'en servir. Tu dois travailler, ne serait-ce que pour aider tes amis. Puisque personne ne peut être à la fois tailleur, marchand d'eau et menuisier. L'univers trouve un équilibre dans le partage du labeur et des gains. C'est une erreur de croire être libre parce qu'on consomme gratuitement. Je ne connais pas de gain meilleur que la confiance en Dieu, fit l'âne. Car chaque fois que l'on remercie Dieu, notre gain augmente. Ils conversent ainsi longtemps et finirent par épuiser les questions et les réponses. Sans si longtemps et finir par épuiser les questions et les réponses. À la fin, le renard dit à l'âne : C'est une idiotie que de patienter dans ce désert de pierrailles. La terre de Dieu est vaste. Va plutôt vers la prairie. Là-bas, tout est vert comme au paradis. Les herbes croissent abondamment. Tous les animaux y vivent dans la joie et le bonheur. Les herbes sont si hautes que même un chameau pourrait s'y dissimuler. De ci, de là, des ruisseaux d'eau pure agrémentent cet Éden. L'âne ne songe même pas à répondre. « Oh, traître, puisque tu viens d'un tel paradis, pourquoi es-tu toi-même si maigre? Où est donc ta joie? La faiblesse de ton cœur est pire que la mienne. » Si tu es un émissaire des ruisseaux dont tu me parles, alors quel messager enverra la sécheresse? Tu racontes beaucoup de choses, mais tu n'apportes guère de preuves. À force d'insistance, le renard parvint à entraîner l'âne vers la forêt et le conduisit vers le repaire du lion. Alors qu'ils étaient encore assez éloignés, le lion chargea, plein d'impatience. Avec un terrible rugissement, il se rua vers l'âne. Mais ses forces le trahirent, et l'âne, à moitié mort de peur, parvint à se réfugier dans la montagne. Le renard dit alors au lion, « Au sultan des animaux, pourquoi avoir agi ainsi contre toute raison? Pourquoi t'es-tu précipité? Si tu avais su attendre, c'était une affaire entendue. À ta vue, l'âne s'est enfui, et ta faiblesse, révélée au grand jour, te couvre de honte. Je croyais posséder ma force d'antan, dit le lion. J'ignorais que j'étais affaibli à ce point. La faim m'a fait tout oublier. Ma raison et ma patience sont évanouies. Je t'en prie, utilise encore une fois ton intelligence. Et ramène-le-moi. Si tu y parviens, je te serai reconnaissant pour toujours. Si Dieu le veut, fit le renard, l'aveuglement de son cœur lui fera de nouveau commettre la même erreur. Peut-être oubliera-t-il la peur qu'il vient d'éprouver. Ce ne serait guère étonnant de la part d'un âne. Mais si jamais j'y parviens, ne pêche pas par excès de précipitation, pour ne pas ruiner mes efforts. J'ai l'expérience désormais, dit le lion. Je sais que je suis faible et invalide. Je te promets de ne l'attaquer que lorsqu'il sera à ma portée. Ainsi, le renard se remit en chemin en priant. Oh mon Dieu, aide-moi. Fais que l'ignorance obscurcisse l'intelligence de cet âne. Il doit être présentement en train de se repentir et de se jurer de ne plus se laisser abuser par les promesses d'autrui. Aide-moi afin que je puisse le tromper encore une fois, car je suis ennemi de toute intelligence et traître à tout serment. Eh bien voilà, nous laissons ainsi le renard réfléchir à ses ruses Et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour vous raconter la suite de cette anecdote. D'ici là, au revoir et passez une très bonne semaine.
Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.